Les par actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seil au micro et en manchette aujourd'hui, la semaine de l'école publique. Le financement est inadéquat selon la FAE et mobilisation pour les élèves en difficulté. Également aujourd'hui, la réalité virtuelle pour traiter la douleur fantôme et puis des employeurs voyants qui demeurent aveugles face aux compétences des personnes non-voyants. Aussi, un autre dossier, c'est Parkinson Canada qui tend la main aux pharmaciens. Et comme toujours, il y aura deux entrevues aujourd'hui. Il y aura d'abord Mylène Plante, qui est agente de développement pour la Corporation de développement communautaire d'Amos. Et puis aussi, je vais m'entretenir avec Geneviève Labrec, directrice du regroupement pour la trisomie 21, autour du mois de l'accessibilité dans les bibliothèques. Alors, semaine de l'école publique, le financement est inadéquat selon la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement. La FAE, donc, déplore le financement inadéquat dont celle-ci dispose. Selon le président de la Fédération, Sylvain Mallette, pour que le réseau des écoles publiques puisse maintenir le même niveau de service qu'il offre actuellement, il faudrait que les budgets accordés par le ministère de l'Éducation soient haussés de 5 %. Ce qui n'est pas le cas. Monsieur Mallette rappelle que le gouvernement cible sur 3,5%, ce qui est nettement insuffisant selon lui. Et cette augmentation, ajoute-t-il, ne sert qu'à assurer les services actuels et non à réinvestir pour améliorer la situation. Sylvain Mallette souligne que l'école publique doit accueillir tous les élèves, mais qu'on ne lui donne pas toutes les ressources dont elle a besoin. Malgré ses moyens limités et les compressions qui lui sont imposées, l'école publique réussit, selon M. Sylvain Mallette. La semaine de l'école publique, qui mettra l'accent sur les grandes et les petites réussites quotidiennes que font les élèves avec un handicap ou avec d'importantes difficultés d'adaptation ou d'apprentissage grâce au travail des enseignants. Semaine pour l'école publique encore et mobilisation pour les élèves en difficulté. L'éducation spécialisée est le point de mire de la semaine pour l'école publique. La SPEP qui s'est amorcée aujourd'hui donc dans l'Est de Montréal. Le coup d'envoi de la 7e édition de la semaine pour l'école publique qui se déroule jusqu'au 9 octobre a été donné à l'école Marc Laflamme, le prélude situé dans Pointe-aux-Trembles. Cet établissement spécialisé accueille quelques 150 élèves de 5 à 21 ans présentant une problématique de santé mentale. Dans un contexte de compression budgétaire, ce sont malheureusement souvent ces écoles spécialisées qui subissent en premier les coupes, précise M. Mallette, le président de la FAE, le regroupement de syndicats qui organise l'événement. C'était donc important pour nous de les présenter. Qu'est-ce qu'une classe spécialisée? Une classe spécialisée est une classe qu'un élève intègre dans un milieu régulier. Selon la FAE, en 2012-2013, on comptait plus de 58 000 élèves HDAA qui fréquentaient une classe spécialisée au Québec, sur un total de près de 190 000 élèves HDAA. On compte dans la province 46 écoles et classes spécialisées, que ce soit en maternelle, au primaire et au secondaire. Nos élèves sont ici car ils ont besoin de services spécialisés ou même sur-spécialisés, souligne Michèle Garcia, directrice de l'école Marc Laflamme, le prélude. C'est important que les gens soient au courant que tous les élèves à l'école publique peuvent recevoir des services. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans pour tous les enfants, qu'importe leur handicap, ajoute-t-elle. L'école publique mise en avant. Durant cette semaine, les médias vont visiter différentes ressources spécialisées dans Montréal, l'Outaouais et les Basses-Laurentides, pour qu'ils constatent ce que sont ces écoles et classes spécialisées, ainsi que les activités organisées, mentionne M. Mallette. La Journée mondiale des enseignants, le 5 octobre, va leur permettre également d'organiser des festivités afin de saluer le travail des enseignants, et particulièrement des enseignants en adaptation scolaire, qui font un travail colossal avec des élèves qui ont des besoins particuliers. Si tout va bien, je devrais m'adresser dans quelques secondes avec Mylène Plante, agente de développement pour la Corporation de développement communautaire d'Amos. Bonjour, Madame Plante.
Bonjour.
Alors, on parle de troqueurs.
Oui, troqueurs Amos Région.
Quel beau titre quand même. Un beau flash. Est-ce que c'est vous qui avez trouvé ça? Troqueur?
Non, ça vient vraiment de Rouen. C'est vraiment un groupe de Rouen qui ont décidé d'appeler ça comme ça.
Eh bien, écoutez, bravo. Alors, je voudrais quand même préciser que troqueur, ça s'écrit bien évidemment en deux mots. Troc, comme du troc, avec un trait d'union, et heure, H-E-U-R-E-S, parce qu'on parle bien de troc de temps. C'est bien ça, exactement. Madame Plante.
En fait, c'est un échange de services.
Oui.
Dans lequel le système est basé sur les heures au lieu de l'argent, comme on est habitué de fonctionner habituellement.
Un échange de services. Oui. Dites-nous, par exemple, entre quoi et quoi, alors?
Entre quoi et quoi?
Ben, je veux dire, en tout cas, qu'est-ce qui peut s'échanger comme service? Qu'est-ce que vous avez?
On a quand même près de 700 services que les gens peuvent échanger.
700 services?
Oui. Fait qu'on passe de petits déneigements, bricoleurs pour des petits travaux,
oui.
Accompagnement pour rendez-vous divers, initiation générale à l'informatique, visite maison lors d'absence. Il y a vraiment de tout, là.
Ah oui, aussi?
Oui.
Et est-ce qu'on peut... j'imagine que c'est quand même, du coup, une très grosse organisation. Alors, tout est centralisé dans votre organisme, c'est ça? Puis les gens appellent et c'est comme ça que ça s'organise?
En fait, c'est un site Internet.
Ah, d'accord.
La base, ouais, c'est vraiment le site Internet, le noyau de Troqueur. C'est ça, les gens s'inscrivent à Troqueur à partir du site Internet. Puis c'est à partir du site Internet également qu'on peut échanger les services, là, qu'on peut demander un service à quelqu'un et qu'on peut valider un service.
Mm-hmm. Et ça, c'est dans le but, évidemment, entre autres, de contribuer à lutter contre la pauvreté, par exemple, hein, et puis l'exclusion, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas les moyens de faire, je pense aux personnes handicapées ou autres, quand il faut faire des neiges, par exemple. Hein.
Oui, exactement. Ben, en fait, on a plusieurs objectifs. On a brisé l'isolement en créant un réseau social plus étendu.
Ah, OK.
On a rendu accessible à la population une banque de services et de loisirs.
Mm-hmm.
Construire la confiance des membres en leur capacité à offrir des services dans un domaine dans lequel ils sont compétents. Ça,
okay.
C'est un point qui est très important parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont l'impression qu'ils ne sont pas capables d'aider tant que ça les autres, là, mais c'est tout le monde est capable de...
Ben oui.
D'aider quelqu'un. Là.
Oui, parce que là, il y a des gens qui pourraient vous dire « Oui, mais moi, j'ai rien à offrir. » Oui, mais bon, prendre une pelle pour aller déneiger, par exemple, si on a pas mal dans le dos, pourquoi pas, quoi?
Non, c'est ça, exactement. Puis, justement, comme je disais tantôt, on a près de 700 services que les gens peuvent offrir. Fait que, en faisant le tour, c'est assurer qu'il y a quelque chose que tu es capable de faire.
Ben oui, c'est sûr. Et ça représente, est-ce que vous savez à peu près combien de personnes déjà ont fait affaire avec vos services? Et...
Ben nous, à moi, ça a débuté mardi passé. Fait qu'évidemment.
Et là là, c'est tout neuf, tout neuf.
Nous, ça fait, tu vois, ça fait depuis mardi passé qu'on a eu notre lancement.
Oui.
Mais à Rouen, ça fait quand même depuis 2011. Puis de façon approximative, là, c'est 100 personnes qui sont inscrites.
OK. 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 Alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si une personne handicapée, elle, effectivement, elle pourra peut-être pas offrir de service. S'il n'y a pas de service à vendre, il n'y a pas de troc?
C'est sûr qu'il faut offrir un service. Dans le fond, une des bases, une des principes fondamentaux, c'est d'offrir des services puis d'en recevoir, finalement. Là.
Mm-hmm.
Mais mm-hmm. Tu sais, nous, on fait affaire avec plusieurs organismes parce que nous, la CDC, on est un groupement d'organismes.
Mm-hmm.
Puis parmi les organismes, j'ai des personnes avec un handicap quelconque.
Oui.
Puis la plupart sont capables d'offrir un service. Tu sais, il y a des services qui sont plus faciles que d'autres, là, évidemment. Là,
c'est oui.
Il y a des services qui sont peut-être pas capables de donner, mais il y en a d'autres que, d'après moi, là, on parle de classement de livres, de ménage léger.
Oui, non, c'est sûr. On parle pas d'aller refaire un toit, là, j'imagine.
Non,
là.
C'est ça. Exactement. Fait que, moi, je suis convaincue que tout le monde est capable d'offrir au moins un service. Là,
bien sûr. Et dites-moi, qu'est-ce qu'il faut pour devenir membre? Il faut s'inscrire quelque part? Qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est sur le site Internet.
Oui.
Puis qu'on soit à Rouen ou à Amos, là.
Oui.
À partir du site Internet, c'est sûr que le site Internet n'est pas le même, évidemment, là. Mais il faut s'inscrire sur le site Internet. On a des données qu'il faut remplir, là, le nom, de téléphone, toutes les choses pour qu'on puisse rejoindre la personne.
Mm-hmm.
Puis il y a un coût de 20 $ qu'il faut défrayer aussi, par exemple.
Ah, OK.
Le coût de 20 $ sert finalement à faire des activités pour que les gens apprennent à se connaître. Parce que si les gens ne se connaissent pas, ils ne demanderont pas de service. Là.
Mais quel type d'activité? Comme du réseautage ou des choses comme ça?
Oui, exactement. Des activités de réseautage pour que les gens apprennent à ils se voient, ils apprennent à se connaître, puis...
OK, d'accord. Donc, ils arrivent avec, avec leur carte d'affaires ou avec leur proposition, puis ils disent, ben, écoute-moi, je peux te faire ça un jour, si tu veux. Ah, ben, ça tombe bien parce que j'en ai besoin, etc., quoi. C'est comme ça que ça se passe, hein?
Dans les activités, là, nous, évidemment, on n'a pas le temps d'en faire encore, mais j'ai discuté beaucoup avec Trocœur Rouen. Mais c'est vraiment plus des activités d'accord. pour les gens s'amusent et tout, ils apprennent à se connaître. Bonjour, moi, je m'appelle Mylène. Je fais okay. ça dans la vie, blablabla, on discute, on apprend à se connaître tranquillement.
Mais oui,
Pour qu'ensuite, quand moi, mettons, j'ai besoin d'un petit déneigement, quand je clique sur le service, je peux voir c'est qui
offre, exactement. Ah, ben c'est
voir,
super.
Mettons, je sais pas, j'ai une Nancy, j'ai parlé avec une Nancy pendant une activité de réseautage, puis je vois son nom parmi le déneigement, ben tu sais, évidemment, je vais être plus portée à lui demander à elle. Là.
Mais vous avez l'impression que ça existe beaucoup au Québec, ça? Il y a d'autres organisations qui font ça aussi?
Ben il y a la Corderie. Corderie du Québec, qui est un réseau québécois. Puis je pense qu'ils sont 11 ou 12, là, puis ça fait plusieurs années que ça existe, là.
Ah ben en effet. Eh ben écoutez, c'est vraiment une très très bonne idée, Mylène Plante, agente de développement pour la Corporation de développement communautaire d'Amos, et qui nous parlait de Trocœur. Alors Trocœur, je vous rappelle, troc comme du troc, T-R-O-C, trait d'union, heure au pluriel, j'imagine,
oui,
H-E-U-R-E-S. Alors si vous voulez écrire et vous inscrire, on fait trocœur.com.ca.
Ben pour nous c'est
.ca, d'accord.
C'est Trocœur. Amos Région.
Ah. Donc trocœur@amosregion.ca.
Oui.
Eh bien, merci beaucoup, Mylène. Ça nous a fait plaisir de pouvoir parler avec vous. Et puis, ben, bonne chance. Et j'espère que tout va bien se passer pour cette initiative-là.
Oui, merci beaucoup à vous de nous avoir invités.
Mais de rien. Allez,
bye.
Bonne journée. Au revoir. Actualité en région, la réalité virtuelle pour traiter la douleur fantôme. Il s'agit d'un nouvel espoir dans le traitement des douleurs chroniques et des douleurs fantômes. Une chercheuse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, le CIUS, de la capitale nationale, utilise la réalité virtuelle pour intervenir auprès de patients dans le cadre de travaux de recherche. Et les résultats, ma foi, sont prometteurs. Elle s'appelle Catherine Mercier. Elle est également rattachée à l'Université Laval. Elle a développé une technique pour aider les patients aux prises avec des douleurs que les médicaments n'arrivent parfois pas à traiter convenablement ou encore avec beaucoup d'effets secondaires. La méthode développée par la chercheuse s'inspire de la technique du miroir, popularisée aux États-Unis et utilisée partout dans le monde pour traiter les douleurs chroniques. Le concept est de donner au cerveau l'impression que tous les membres sont sains en utilisant la réflexion dans une glace. Par exemple, Gérard Gagnon a une paralysie de la main gauche, il a développé une douleur fantôme. Eh bien, pour traiter sa douleur, il utilise une lunette à prisme avec un miroir qui donne l'illusion de voir sa main gauche alors qu'il regarde sa main droite qui est toujours fonctionnelle. Cet homme, Gérard Gagnon, a perdu l'usage de sa main gauche. Il dit « Mon cerveau, après avoir vu ma main gauche une vingtaine de minutes, disait « Elle va bien, la main. Elle va bien. » Et ça a enlevé complètement la douleur, apparemment. Ça a enlevé la sensation de la main fantôme, explique l'homme. Ces résultats lui ont permis de réduire notamment beaucoup ses doses d'antidouleur. Alors, peut-être que vous savez qu'il y a quand même 16% des Québécois qui souffrent de douleurs chroniques. Alors, on espère que cette technique de la réalité virtuelle pourrait venir en aide à un grand nombre d'entre eux, y compris ceux qui souffrent de douleurs au dos, par exemple, et qui ne peuvent bénéficier pour le moment de la technique du miroir traditionnel. Alors oui, bien sûr, on parle beaucoup de cette semaine pour l'école publique, hein, chapeautée par la Fédération autonome de l'enseignement qui bat son plein depuis hier sous la thématique des classes et des écoles spécialisées. Cependant, dans la région du lac Témiscamingue, et c'est ce que nous fait savoir un communiqué qui nous vient de la commission scolaire du lac Témiscamingue, dans cette région, il n'existe aucune école spécialisée. Et cette situation cause plusieurs lacunes selon le syndicat des enseignants de Lungava et de l'Abitibi-Témiscamingue, qu'on appelle aussi la SEUAT, S-E-U-A-T. l'équité. En Abitibi-Témiscamingue, ce sont les commissions scolaires qui ont la responsabilité de mettre des ressources à la disposition des élèves handicapés ou qui présentent des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Or, Luc Gravel, président du CEAT, observe que depuis la fermeture de la direction régionale du ministère de l'Éducation, il est de plus en plus difficile d'obtenir la validation du statut de ces élèves par le ministère. Il estime que les refus ont ainsi augmenté de 15 à 20% à l'échelle de la région. Ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a que très peu de fonctionnaires qui travaillent sur le dossier à Québec et qu'ils appliquent des règles strictes, dit-il. Donc, si par exemple on a un délai pour rencontrer un psychologue, un orthophoniste ou quelque chose comme ça qui n'est pas respecté, on rejette le dossier, ce qui est problématique parce que l'élève est dans la classe, les enseignantes doivent vivre avec, les commissions scolaires sont conscientes de la problématique. Mais c'est difficile d'aller chercher les sommes supplémentaires de services. Et puis, j'avais aussi un petit mot, mais je vais me réserver ça pour demain, pour l'école publique pour tous dans les écoles de l'Outaouais. Et si je ne m'abuse, j'ai en nom de Madame Labrecque, hein, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Bonjour, bonjour Geneviève. Vous êtes directrice du regroupement pour la trisomie 21.
Exactement.
Et je suis très, très contente de vous parler aujourd'hui parce que nous avons déjà évoqué hier à l'émission, c'est le mois de l'accessibilité des bibliothèques de Montréal et c'est très en lien avec l'ERT 21.
Exactement. En fait, c'est tellement une belle initiative de la ville de Montréal et de Altergo de faire ça, ce mois d'accessibilité universelle-là et de sensibiliser la population aux personnes qui vivent avec un handicap. Pour nous, le regroupement pour la trisomie 21, c'est vraiment important de participer en offrant des activités à la population.
Alors, quelles sont les activités que vous organisez dans le cadre de ce mois de l'accessibilité dans les bibliothèques?
En fait, on veut beaucoup, je vous dirais, enlever le préjugé que les personnes ayant une déficience intellectuelle ne peuvent pas lire. Souvent, les gens croient que parce qu'on a une déficience intellectuelle, on est automatiquement illettré. Donc, nous, on a offert dans les bibliothèques l'heure du contre. Alors, Célia, qui est intervenante communautaire au regroupement pour la trisomie 21, accompagnée de Gabrielle de Villers, vont dans deux bibliothèques faire l'heure du compte les deux ensemble. Donc, ils vont raconter une histoire sur la trisomie 21 à des enfants de entre 3 et 6 ans. Donc, ils vont aller à la bibliothèque Mordecai Richler le 15 octobre et le 22 octobre à la bibliothèque Robert Bourassa, qui sont toutes les deux de magnifiques bibliothèques de la ville de Montréal.
Les contes ont été écrits par qui?
En fait, c'est des contes qu'on a trouvés, nous, qui ont été écrits par, je cherche le nom de l'auteur en ce moment, qui ont été écrits ici au Québec. Ça vient de la collection Héritage. Et c'est une belle collection qui s'appelle Raconte-moi. Donc, nous, il y en a un sur la trisomie 21 qu'on trouvait bien parce qu'elle était bien expliqué, en fait. Il explique que la trisomie, ce n'est pas une maladie, que ça ne s'attrape pas, que ce n'est pas non plus un pays, parce que des fois, les gens confondent des origines ethniques.
Oui, ben oui, quel fichu pays aussi de s'appeler comme ça. Mais oui, absolument.
En fait, le conte est vraiment bien parce qu'il explique aux enfants très simplement, dans des mots faciles à comprendre, c'est quoi la trisomie 21 et que c'est pas parce qu'on a une trisomie 21 qu'on ne peut pas avoir d'amis. Et que ça soit raconté par une personne qui vit avec cette situation-là, avec cet état-là, c'est la meilleure des sensibilisations. Donc, pour nous, au regroupement, le mois de l'accessibilité, c'est un beau, beau mois. Et en plus, on essaie d'encourager nos membres à aller plus dans le réseau des bibliothèques.
Mais oui, bien sûr. Et dites-moi, ils réagissent comment, les enfants, quand ils... D'abord, parce que, évidemment, c'est ouvert à tout le monde.
Exact. Hein,
et alors, à quoi ils voient, quel âge a la personne qui vit avec la trisomie 21?
Il y a une vingtaine d'années.
Une vingtaine d'années.
C'est un jeune adulte.
C'est un jeune adulte, OK.
Exact. Et souvent, les enfants en bas âge, la voient la différence, mais beaucoup moins qu'un adulte. Donc, pour eux, c'est une personne comme tous les autres. Et là, ils observent. Ce sont souvent les enfants vont observer beaucoup et ils vont poser des questions très terre à terre. Les enfants sont merveilleux pour ça. Ils n'ont pas nécessairement de préjugés. Ils arrivent et ils ont une question très simplement, mais pourquoi je ne l'attrape pas, moi, si je donne la main? Donc, c'est toutes des petites questions qu'on travaille. Et On le sait, la sensibilisation, c'est la clé de l'intégration, de l'inclusion sociale. Donc, plus qu'en petite enfance, on explique les handicaps, quand ils vieillissent, les personnes,
oui,
les enfants, ils sont plus ouverts.
Et ça doit être aussi essentiel pour quelle aventure pour ce jeune garçon,
oui,
de pouvoir, parce que lui aussi, ça va le faire avancer sûrement beaucoup.
En fait, c'est un jeune homme qui est très, très ouvert, qui est très connu
bon.
Dans sa communauté, qui est très impliqué.
D'accord.
Donc, pour lui, c'est tout naturel, là. Il veut devenir conférencier, donc.
C'est vrai?
Oui.
Ah, ben est-ce qu'il... Ah, écoutez, il faudrait qu'on s'en parle. J'aurais tellement de questions
à vous. Il y a souvent des préjugés qu'on dit que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou une trisomie 21 peuvent faire que certains emplois, mais ils ont des goûts, puis ils ont des intérêts, puis si on en a un membre chez nous qui est entrepreneur, qui a une compagnie de jeux gonflables à Laval, parce que lui a vécu dans un milieu où ses parents sont des entrepreneurs, donc, ça allait de soi qu'elle allait devenir entrepreneur.
Bien sûr.
Donc, ça dépend vraiment des goûts, des intérêts de chacun. Il y en a qui sont très verbomoteurs, donc pourquoi pas les faire devenir conférenciers?
Exactement. Je trouve ça merveilleux et fantastique. Geneviève Labrec, directrice du regroupement pour la trisomie 21, et faut-il le rappeler, allez-y dans les bibliothèques. C'est le mois de l'accessibilité des bibliothèques de Montréal, directement en lien avec Liberté 21. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'on se parle ce matin. Je vous remercie beaucoup,
ça
Geneviève. Et puis, au plaisir de vous reparler sur nos ondes. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Actualité canadienne maintenant, de nombreux Canadiens demeurent aveugles devant les aptitudes et les compétences des chercheurs d'emploi vivant, eux, avec une perte de vision. 7 Canadiens sur 10 choisiraient un candidat voyant plutôt qu'un candidat aveugle. La campagne Employabilité d'Inca invite les employeurs à voir au-delà de leur préjugés. Pour marquer le mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées, Inca lance la campagne Employabilité et invite les employeurs canadiens à voir au-delà de leurs préjugés et à embaucher des personnes aveugles ou ayant une vision partielle. La perte de vision ne fait pas de discrimination. Elle peut survenir à tout âge et avoir des conséquences néfastes importantes sur l'employabilité d'un individu. Le Canada compte actuellement 500 000 de personnes aveugles ou ayant une vision partielle. Et ce nombre croît sans cesse. Ces personnes représentent un important segment de la population et parmi celles-ci, on compte plus de 100 000 adultes aptes à travailler. Or, le taux d'emploi des Canadiens vivant avec une perte de vision est remarquablement bas, soit 38 % contre 73 % dans le cas des personnes non handicapées. Et de surcroît, près de la moitié des Canadiens aveugles ou ayant une vision partielle ont un faible revenu, soit un salaire annuel de 20 000 $ ou moins. De nos jours, travailler avec un collègue aveugle ou ayant une vision partielle, c'est comme travailler avec n'importe quelle autre personne. Et les personnes vivant avec une perte de vision mènent de brillantes carrières dans des domaines comme les sciences, le droit et les technologies. Alors la campagne Employabilité d'Inca offre une série de messages d'intérêt public qui bousculent les préjugés et les idées préconçues concernant la vie au travail en compagnie d'un collègue vivant avec une perte de vision. Ces messages, réalisés grâce au financement du gouvernement du Canada, mettent en vedette des personnes aveugles et non des comédiens. Il s'agit de David Demers, qui a perdu la vue juste avant de franchir le cap de la trentaine et qui, à 35 ans, est directeur du développement des affaires et des relations publiques chez eSight. Il s'agit aussi de Marilyn Gélina, qui a été infirmière pendant 9 ans avant de perdre son emploi en raison de sa déficience visuelle. Alors, ils sont les « vedettes » entre guillemets de ces messages télévisuels diffusés en français, que vous pouvez aller voir, nous vous invitons à les visiter sur le site de inca.ca, /employabilité, évidemment pas d'accent, et comme ça se prononce, comme ça s'articule, et comme ça s'appelle, employabilité, pour obtenir de plus amples renseignements, notamment pour aller voir ces petites capsules-là, mais en plus pour obtenir des renseignements sur l'embauche d'une personne aveugle. « Et puis, Parkinson Canada tend la main aux pharmaciens au moyen d'un module d'apprentissage en ligne visant à accroître leur capacité à conseiller les personnes touchées par la maladie de Parkinson. Dans cette optique, Parkinson Canada lance un module d'apprentissage en ligne spécialement conçu pour aider les pharmaciens à comprendre les médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson et à conseiller leurs patients atteints de cette maladie du cerveau qui s'aggrave au fil du temps. Ils peuvent recevoir un module d'apprentissage qui utilise des scénarios de cas afin de permettre aux apprenants de mieux comprendre les options de traitement pharmacologique qui s'offrent aux différentes étapes de la maladie de Parkinson. Après avoir étudié ce module, les pharmaciens pourront recommander des modifications au dosage des médicaments en fonction des complications motrices de la personne touchée et des différentes étapes de la maladie, reconnaître et prendre en charge divers symptômes non moteurs que présentent couramment les patients atteints de la maladie de Parkinson, décrire le rôle du pharmacien dans la prestation de soins aux patients à différentes étapes de la maladie. Les pharmaciens et les autres professionnels de la santé peuvent s'inscrire au module d'apprentissage en ligne intitulé « Prise en charge de la maladie de Parkinson » en remplissant simplement le formulaire d'inscription en ligne. Des frais de $30 s'appliquent. Octobre, c'est aussi le mois du nanisme, un moment privilégié pour informer et sensibiliser la population à cette condition toujours méconnue. Pour une 4e édition du mois du nanisme au Québec, l'Association québécoise des personnes de petite taille, l'AQPPT, misera sur le thème « Le nanisme, c'est plus d'une centaine de maladies rares ». Des dizaines d'affections très diverses causant des complications médicales et des limitations fonctionnelles plus ou moins sévères ont comme point commun un retard significatif de la croissance, entraînant une taille nettement inférieure à la moyenne. Tout au long du mois d'octobre, la QPTT illustrera le fait qu'avoir la chondroplasie, le syndrome de Morquio ou l'ostéogénèse imparfaite, pour nommer les plus connus, ce n'est pas juste être petit. En effet, les personnes vivant avec l'une des différentes formes de nanisme rencontrent souvent des problèmes au quotidien et des complications reliées à leur diagnostic. Compression de la moelle épinière pouvant mener à une paralysie, remplacement des hanches suite à une usure prématurée, déformation osseuse nécessitant des chirurgies correctives répétées, nombreux suivis médicaux durant l'enfance. Vous savez que le nanisme est un handicap sérieux entraînant des conséquences importantes sur la santé physique, la vie quotidienne et la participation sociale des personnes qui en sont affectées. Savez-vous aussi que tout le monde peut donner naissance à un enfant de petite taille et que plus de 80% des personnes ayant un important retard de croissance naissent de familles où il n'y a aucun précédent de nanisme. La prévalence est de une naissance sur 10 000, toutes causes confondues. Alors, si vous voulez des informations, eh bien, le site internet, c'est www.aqppt.org. Et aujourd'hui, à Accès libre, Karine Villeneuve, directrice de la QPPT, sera accueillie par Benoît Rassette. C'était les Paractualités, Clotilde Seille au micro. Merci et à demain, 11h30.